Bonsoir à chacun de nouveau. Quelle joie d'être à nouveau avec vous. Tout ce que le pasteur a dit, c'est réciproque. La seule chose peut-être qu'il y a eu comme erreur, c'est de penser qu'il y a des choses à redire dans ce qu'elle dit, parce qu'elle est toujours vraiment dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a écrit un livre, et ce soir, elle me l'a donné, et ce soir, dans le bureau, je lisais le premier chapitre, je me dis, il est bien écrit ce livre. Vraiment, chapeau, pasteur. On est vraiment honorés de vous connaître. Et j'espère bientôt que mon épouse viendra pour qu'on puisse se connaître aussi avec mon épouse et que vous puissiez tous les deux la rencontrer. Et vous allez voir que si vous pensez que moi, je suis bien, alors elle, c'est quoi? Alors, elle est excellente. Ah, c'est pour ça que je ne la prends pas avec moi. Hein? Sinon, il invite à elle et il ne m'invite plus à moi. Non, ce n'est pas vrai. On fait une équipe avec le Seigneur. Amen. Ce matin, j'ai été vraiment secoué par une grosse tempête. Mais bon, j'ai appris à chasser la tempête, à endurer la tempête ou à traverser la tempête. Amen. Et surtout à être toujours sous l'écoute de ce que le Seigneur nous dit. On a toujours besoin de la sagesse de Dieu et on ne sera jamais assez sage pour dire un jour, j'ai plus besoin de toi. Amen. Tout comme on ne serait jamais assez sage de dire un jour, j'ai pas besoin de grandir. On a toujours besoin de grandir. L'apôtre Paul était probablement le plus grand des apôtres, et peut-être après Jésus-Christ, le plus grand personnage qui a vécu sur la terre, autant au niveau séculier qu'au niveau chrétien. Et pourtant, il dit un jour, ce n'est pas que j'ai atteint le but, mais je cours pour atteindre le prix et gagner le prix. Amen. Amen. Et donc, je suis heureux d'être là ce soir. Je ne vais pas être trop long. Et je voudrais qu'à la fin, nous puissions prier pour ceux d'entre vous qui avaient des besoins, autant pour la guérison que pour d'autres choses. Mais je vais commencer par un petit examen. Qui peut me nommer trois juges en Israël? Trois noms. Déborah. Comment? Samuel, Gédéon, un autre, Samson. Alors pourquoi elle a dit, elle a raison et elle n'a pas raison. Elle a raison que Samuel n'est pas dans le livre des juges, mais elle a raison que Samuel était juge, c'était le dernier juge d'Israël avant le roi Saül. On peut l'applaudir, amen. Non, parce que quand on dit les juges, on pense directement au livre des juges, etc. Alors, maintenant, qui peut me donner deux juges ultra inconnus? On ne parle pas beaucoup d'eux. Qui était gaucher? Qui était le juge gaucher? Vous ne vous rappelez pas du juge gaucher? Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était un juge gaucher. Et être gaucher, ce n'était pas bien vu. C'était un handicap. Et à un moment, il va voir le roi ennemi, mais on le fouille. En général, les gens étaient droitiers. Donc, on va voir sur ce côté-là s'il y avait l'épée. Mais il était gaucher, il était de l'autre côté. Et on connaît l'histoire, il va tuer le roi. C'était Ehud. Un autre nom, il y a un autre nom? Ça devient un peu plus compliqué, hein? Il y a Othniel, qui est un peu inconnu. Qui peut me nommer deux juges dont le nom commence par S et pas Samuel? Vous l'aviez dit auparavant? Samson, un autre? Well, laissez-moi aller plus loin. Le deuxième qui commence par S, il n'y a qu'un verset dans la Bible qui parle de lui. Par contre, il a fait un grand exploit parce qu'il a tué 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Comment s'appelait-il? C'est pour moi l'homme le plus inconnu de la Bible et pourtant il a fait des grands exploits. Savez-vous que peut-être vous et moi, on peut être considéré comme des gens inconnus, mais nous pouvons faire des exploits pour le Seigneur. On peut faire des grandes choses pour Dieu. Amen. Qui est cet homme? La Bible dit de lui que son nom était Shamgar. Dites-le avec moi, Shamgar. Shamgar. Selon votre accent, vous dites Shamgar. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de lui, mais il y a un verset dans la Bible qui parle de lui. C'était un fermier ordinaire, un moins que rien, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a jamais quelqu'un qui est moins que rien. Amen. Lorsque sa famille et sa nation étaient menacées, il a vaincu un assaut de 600 guerriers philistins, et tout cela avec un simple aiguillon à bœuf. Lisons cela dans Juges 3, 31. Je n'ai pas donné le verset à l'équipe là-bas parce que j'avais peur qu'ils me volaient le nom. Je dis Shamgar! Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes de Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Waouh! Amen! Alors, quelqu'un se pose la question, mais c'est quoi un aiguillon à bœuf? Quelqu'un sait c'est quoi un aiguillon à bœuf? Il faut être agriculteur pour cela. Alors, rappelez-vous, maintenant, les bœufs, en général, sont tous entre enclos, mais dans le temps, on les prenait. Bon, quelquefois encore, hein, on les fait passer d'un enclos à l'autre. Des fois, ils doivent traverser la route. L'aiguillon à bœuf, c'était un grand bois, comme une baguette, mais au bout, il y avait un petit morceau pointu de fer et on piquait le bœuf pour qu'il avance. Un petit peu comme les choses que les cow-boys ont, comment on appelait ça encore ? Les écrans à chevaux. Ben là, c'était pour le bœuf. Et avec un petit aiguillon à bœuf qui ne servait qu'à chatouiller le bœuf, il a tué 600 personnages. Waouh ! 600 guerriers aguerris. Amen. Deux fêtes sont à noter pour cette immense victoire. Cette victoire n'a pas été pour lui, mais pour tous. Tout Israël a été libéré. Et quand nous cherchons une victoire dans notre vie, ne tombons jamais dans un péché d'égoïsme et d'écocentrisme. C'est la victoire pour moi. Et puis on est content, regarde la victoire que j'ai. Nos victoires doivent toujours bénéficier à chacun d'entre nous. Amen. C'est ça l'Église locale. La victoire d'une personne, c'est la victoire d'une autre personne. La joie d'une personne, c'est la joie d'une autre personne. Amen. Hein? Et on commence à grandir comme cela. Et bien sûr, cette victoire a eu aussi un effet dans sa vie. Le grand principe est toujours le même. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le bien-être de son plan, de son peuple, et le Seigneur prendra soin de vous, et sa victoire deviendra la vôtre. Amen. J'ai quelques petites questions. Voulez-vous participer à la conquête du pays pour le Seigneur, ce pays? Voulez-vous remporter des victoires pour les plans et les objectifs de Dieu pour votre pays? Et votre pays commence dans votre famille, puis dans votre église, puis dans votre ville, puis dans votre province, la belle province. Amen. Et puis dans tout le pays. Vous savez, votre pays, comme mon pays, la Belgique, je vis en Suisse maintenant, je suis italien, comme toute l'Europe, je crois, on pourrait dire comme le monde entier, vit mal. Et on a besoin d'hommes et de femmes, de prières qui vont changer et conquérir le pays pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être vous-même avez-vous aujourd'hui besoin de victoire dans votre vie. Je ne sais pas quels sont les problèmes, les tempêtes, comme on disait ce matin, auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Je ne sais pas quel genre d'attaque vous subissez, mais ce soir, je peux vous transmettre trois secrets qui ont permis à Shamgar de réussir et qui peuvent vous aider à faire de même pour vous. Amen. C'est incroyable que dans un petit verset, on peut trouver trois secrets. Peut-être même qu'il y en a d'autres, mais je vous en donne trois ce soir. Amen. Hein? Le premier secret de Shamgar est qu'il a commencé là où il était. Amen. Vous savez combien de gens disent « Le jour où j'aurai ça, je ferai ça. Le jour où j'irai là, je ferai ça. » Vous savez combien de gens m'ont dit qu'ils vont me donner la dîme de ce qu'ils ont vendu? Mais d'abord, il fallait qu'ils vendent. Alors, je prie avec eux pour qu'ils vendent. Et une fois qu'ils ont vendu, ils ont oublié ce qu'ils avaient dit. Oh, pasteur, vous allez voir, une fois que j'aurai gagné mon premier million, je donnerai 150 000 à l'église. Je les attends encore. Vous, le million, vous l'avez reçu, mais j'attends encore. J'ai appris que je ne peux pas vivre avec les promesses des gens. Je dois vivre avec la promesse de Dieu. Dans l'état où je me trouve, je fais confiance en Dieu. Je me rappelle beaucoup un serviteur de Dieu aux États-Unis qui était en plein début de son église. Après, c'est devenu une grande église. Il y avait 15 000 personnes. Mais il dit, au début, on avait de gros besoins financiers. Et quelquefois, je commence à avoir déjà 200, 300, 500, 1000, 2000 personnes. Et quelquefois, des grands hommes d'affaires venaient avec moi. Ils disent, oh, je veux parler avec vous parce que je veux bénir votre ministère. Et puis, il parle, il prend une heure, deux heures. Le frère paye le repas de cet homme d'affaires et tout. Et à la fin, rien. Et lui-même a dit un jour, j'ai appris. Je ne dois jamais mettre mon espérance sur les hommes, mais toujours sur Dieu. Amen. Mais Dieu utilise des hommes. C'est comme ce petit enfant, un Africain. Il avait 8 ans et il courait les pieds nus dans la rue. Il jouait au football les pieds nus. Et un jour, il a dit à ses copains à l'école, vous savez quoi ? Moi, j'ai prié pour une paire de chaussures et Dieu va me donner une paire de chaussures. Et un mois passe, pas de paire de chaussures. 2 mois passent, pas de paire de chaussures. Au bout de 6 mois, tous les copains ont commencé à se moquer de lui. Il dit, alors, il est où ton Dieu? Elles sont où tes chaussures? À mon avis, Dieu ne te répond pas. Et les larmes aux yeux, il défend Dieu. Et il dit, Dieu a répondu à ma prière pour une paire de chaussures toutes neuves. Le problème, c'est que la personne à qui il a demandé de me les donner ne lui a pas obéi. Alors, peut-être que vous êtes cette personne à qui Dieu demande de bénir quelqu'un. Ah, mais Seigneur, je n'ai pas autant. Donne ce que tu as. Il y a quelqu'un qui part en voyage missionnaire, donnez-lui ce que vous avez. Commencez là où vous êtes, donnez 20 dollars si ce n'est que 20 dollars. 100 dollars si ce n'est que 100 dollars. C'est comme beaucoup de gens disent, Seigneur, Seigneur, augmente mon salaire. Et puis le Seigneur répond, il dit, augmente mon salaire. Seigneur, je veux une augmentation. Peut-être que lui aussi veut une augmentation. Vous n'avez jamais posé la question, Seigneur, mais pourquoi au lieu de te donner 10%, je ne vais pas te donner 12% de facto, plus les offrandes? Hello? J'avais entendu parler d'un homme, j'ai lu plusieurs livres, un livre de lui, il donnait sa dîme à l'avance sur le salaire qu'il voulait obtenir. Donc, c'était un homme d'affaires, il avait beaucoup d'argent. Donc, si au bout d'une année, il avait 200 000 dollars, il donnait, avant de donner sa dîme, combien ? Allez, on va dire 220 000 dollars, ça fait 11 000 dollars par mois. Mais puis, il s'est dit, mais pourquoi je vais donner 11 000 dollars par mois ? Moi, je ne veux pas 220 000, moi, je veux 300 000. Et commencer à donner la dîme sur 300 000. Et petit à petit, le Seigneur le faisait. Alors, je sais que pour certaines personnes, l'argent est tabou, mais pas pour Dieu. Hein. Ah, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est comme le gars qui va vers Dieu et qui dit, Seigneur, c'est vrai que pour toi, 1 million d'années, c'est comme une seconde. Oui. Et c'est vrai, Seigneur, que pour toi, 100 millions, c'est comme 10 euros. Oui. Tu me donnes 10 euros, une seconde. Il a commencé où il était. dans la position où il se trouvait, dans les conditions dans lesquelles il se trouvait, dans les circonstances dans lesquelles il se trouvait. Il n'était pas dans une position de force. Il n'avait ni prestige, ni influence. Il n'était ni célèbre, ni riche. Il n'a pas attendu un moment opportun. Il n'a pas attendu que les choses s'améliorent. Il n'a pas attendu une promotion ou une augmentation. Il est parti. Il a avancé de là où il se trouvait. Il a fait le premier pas. Beaucoup de gens attendent que les conditions soient bonnes pour faire quelque chose. Si vous attendez cela, vous ne ferez jamais rien dans votre vie. Hello? Vous pouvez perdre votre vie à attendre que les choses soient différentes avant de faire quoi que ce soit. Commencez. Aujourd'hui est le bon moment. C'est l'endroit où vous vous trouvez est le bon endroit. Allez de l'avant. Allez à l'église. Votre église est l'endroit où vous vous trouvez. Amen. Agissez. Commencez là où vous êtes. Vous pensez peut-être que vos ressources sont trop limitées pour réussir. Mais rappelez-vous que les seules ressources de Shamgar étaient ses mains nues et un aiguillon à bœuf. Tout ce qu'il avait. Il aurait pu dire... J'attends que j'ai des chars et des chariots. Le jour où j'ai des chars et des chariots, je me battrai contre ma tempête. Le jour où j'ai le ventre... Ah non, je n'ai plus le ventre gros. Avant, je l'avais. Je soufflerai contre la tempête. Amen. Et qui a entendu parler de Helen Keller? On a pratiquement tous entendu parler d'elle. C'est une femme qui est née sourde et muette et très vite, elle est devenue aveugle. Dès l'âge de 19 mois. Et elle est devenue une femme conférencière internationale. Enseignée dans les universités. Sa nanny lui a appris à communiquer avec les doigts puisqu'elle n'entendait plus. Et avec ça, elle réussissait même des fois à dire des mots avec la bouche. Sans parler. Mais elle était sourde, aveugle et muette. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a dit un jour quand on lui a posé « Mais qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être aveugle ?» Et elle a répondu « C'est d'avoir des yeux et pas de vision. » Amen. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de ne rien faire, savoir ce qu'il faut faire et ne pas le faire ? Amen. Savoir dire, le jour où j'aurai ceci, je le ferai. Le jour où les conditions sont meilleures, je le ferai. Shamgar a commencé là où il se trouvait. Amen. Il a commencé à chanter, il a commencé à... je donne un exemple, on commence à chanter alors qu'on n'a peut-être pas les grands talents. On commence à servir. Vous savez combien de gens m'ont dit dans l'église qu'ils sont appelés à pour servir et ne servent pas? C'est comme un jour, ma maman, elle avait reçu une sœur à la maison à 7 heures du matin. Ring ! Et elle rentre. Quand une femme ou une dame, elle avait une trentaine d'années, vient chez vous à 7 heures du matin, ce n'est pas pour vous rendre visite, c'est pour manger. Parce qu'elle n'avait pas à manger. Et puis, elle était restée chez ma maman toute la journée. Moi, je vais après... Mon bureau, je vais la voir, il était vers 5 heures du soir, ou 6 heures, et je la vois, et maman me dit, tu sais, elle n'a rien fait de la journée. Elle n'a même pas débarrassé la table quand ma maman lui a donné à manger à midi, et puis à 4 heures. Et je lui demande, alors, comment vas-tu, ma sœur? Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Ah, moi, je suis appelée à servir l'Éternel. Je lui dis, ma sœur, si tu ne sers pas dans la maison où tu te trouves, si tu ne sers pas dans l'église où tu te trouves, tu ne serviras jamais l'Éternel. Écoutez-moi ceci, je vais vous dire quelque chose qui est très fort. Mais Dieu n'a jamais appelé quelqu'un dans une position de leadership qui ne faisait rien dans la Bible. Dieu a toujours quelqu'un qui mettait la main à la charrue, qui paissait les brebis, mais jamais quelqu'un qui ne faisait rien. Amen, amen, amen. Hein? Le deuxième secret de Shamgar est qu'il a utilisé ce qu'il possédait. Il n'avait ni chariot ni chevaux, il n'avait pas d'armée entraînée, il n'avait même pas une épée rouillée. Mais il a utilisé ce qu'il avait pour détruire l'ennemi et sauver sa famille et sa nation. Dieu n'utilise pas les grands pour qu'ils montrent à quel point ils sont grands. Il utilise les petits pour montrer à quel point il est grand. C'est comme quelqu'un qui est très connu aux États-Unis dans évangéliste et tout. Et maintenant, il évangélise beaucoup les gens de Hollywood et tout. Et c'était un évangéliste très, très connu. Et un jour, Dieu lui a demandé d'ouvrir une église tout près de Los Angeles. Et il commence à dire, je vais ouvrir une église dans une toute petite ville de rien du tout. Peut-être 1000, 2000 habitants. Et un jour, les gens lui ont dit, mais enfin, c'est à Los Angeles que tu vas ouvrir, pas dans ces là. Tu dois aller dans Los Angeles. Là, tu vas faire une grande église. Et il a répondu, en effet, si j'ouvre à Los Angeles, je suis tellement connu que j'ouvrirai une grande église. Mais si je vais dans cette petite ville, ce sera Dieu qui fera une grande église. Amen. Lorsque Dieu a besoin d'un nouveau roi, il choisit un jeune berger, le roi David. Lorsque Dieu a besoin d'un libérateur, il choisit un jeune homme de la plus petite tribu, de la plus petit village et de la famille la plus pauvre, Gédéon. Quand Dieu a besoin d'une femme pour porter son enfant, il choisit une jeune fille nommée Marie, probablement 15-16 ans. Vous n'avez peut-être pas un aiguille à bœuf, mais tout le monde possède trois choses, des compétences, un talent ou une force intérieure qui peut être utilisée pour apporter la victoire autour de vous. Notre église, c'est quoi notre église? C'est laquelle notre église? C'est mon église ici, amen. Mon pasteur est ici, amen. Notre église est très connectée avec des gens dont vous connaissez les noms, dont certains, leur vie entière a été fondée sur un verset biblique. Marc 11, 23 pour Kenneth Hagin et d'autres gens. Je crois Fred Price était Hébreux 11, 1, or la foi, c'est l'assurance, etc. Et tout. Un verset biblique peut transformer la vie de quelqu'un et faire de votre vie un ministère autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez prêcher l'évangile partout, non, peut-être que oui. Mais votre ministère, c'est faire le bien autour de vous comme Jésus. Amen. Hein? Vous êtes connecté à votre église et vous devenez des vaillants ouvriers pour le Seigneur. Amen. Hein? Et il suffit d'un rêve, d'un verset, une vision pour apporter la vie et l'espoir à des milliers de gens. Arrêtez de vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous n'avez pas, et concentrez-vous sur ce que vous avez. Amen. Un rêve peut vous motiver et vous rendre inarrêtable. Instoppable, même si ce n'est pas du français. Un rêve est une image intérieure de l'avenir que nous désirons. Un rêve donné par Dieu nous aide à atteindre nos objectifs. Sachez où vous allez et suivez le rêve que Dieu a placé en vous. Passion et enthousiasme. Shamgar n'a pas vaincu 600 guerriers ennemis sans aucune passion. Il devait avoir sa passion. Amen. Votre pasteur, quand elle prêche avec passion. Quand elle monte, là, elle vient avec passion. Quand elle parle, même pour les offrandes ou simplement pour donner une parole d'exhortation de quelques minutes, c'est avec passion qu'elle est là. Choyez vos pasteurs. Je n'ai pas dit soyez, mais choyez. Alléluia. Montrez de l'amour, de la reconnaissance pour vos pasteurs. Ils se donnent à fond et avec sacrifice pour eux, pour vous. Amen. Hein? Qu'est-ce qui vous passionne? Tout le monde est passionné par quelque chose. Et très souvent, les gens, quand ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est parce que leurs passions ne sont pas toujours au bon endroit. Mais mettez votre passion au bon endroit. Acceptez le défi de Dieu. Lorsque nous permettons à Dieu de canaliser notre passion dans la bonne direction, les forteresses sont brisées et les victoires sont remportées. Amen. J'ai tellement aimé le chant qui disait « Toute ma vie, tu as été fidèle, la bonté de l'Éternel. » Vous savez, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Le mot « bonté » ici, c'est le mot « kassed » en hébreu qui veut dire aussi « la faveur de Dieu ». Et un jour, peut-être il y a 10 ans, je parlais avec Pasteur Réal et avec Pasteur Chantal sur la faveur de Dieu. Et elle m'a dit quelque chose. Je ne l'ai jamais oublié. Et pour moi, c'est quelque chose qui me relève tout le temps. Quand je vois que quelque chose ne va pas dans ma vie, elle a dit ceci. Je ne pourrais pas vivre un seul jour sans la faveur de Dieu. Amen. Et pour moi, ça a été comme un wake-up call. Donato, ne lâche pas la faveur de Dieu. Ne la laisse pas partir. Tu dois avoir la faveur avec toi tout le temps. En fait, ce que David dit, le psalmiste dit, quand il dit « ta faveur ou ta bonté vaut mieux que la vie », il est en train de dire « si je ne l'ai plus, ça ne sert plus à rien de vivre ». Amen, amen. Le troisième secret, on va terminer avec cela, de Shamgar, et qu'il a fait ce qu'il pouvait. La première chose à faire, et la plus puissante, c'est de prier. Hier, j'étais un petit peu honteux, je vous dis la vérité, hier soir, parce que j'étais très fatigué après le restaurant. On est allé au restaurant hier soir. Hein. Ouf, c'était trop bon. Hein. Mais Pasteur Réal, il mange beaucoup. Il n'a même pas mangé ce que je lui ai donné, parce que moi, je mange peu maintenant, je dois donner toujours. Et j'étais épuisé, j'étais encore plus ou moins, je suis encore plus ou moins au jet lag. Et puis je dis, il était vers quelle heure ? 7h30, 8h, 8h15, je suis allé en bas. Et puis à un certain moment, je suis sorti de la chambre en bas et j'entends, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils écoutent à la télévision ? J'entendais comme des chants grégoriens. Ils étaient en train de prier en d'autres langues. C'est vrai, hein? Vous priez en d'autres langues. Et mes amis, c'est pour ça que vous avez une église. Parce que vous avez des pasteurs qui prient en langue pour l'église. Amen. Quand il y avait les réunions de prière le jeudi matin, Johanna, vous vous rappelez, d'autres aussi qui étaient là, Huguette et tout. Oh, mais c'est exceptionnel ce qu'elle faisait. Toute l'équipe, ils allaient derrière les bancs comme ça. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois hein, avec vous le jeudi. Et on priait pour tous les gens qui venaient dans les bancs et tout. Alléluia. Hey, c'est pour ça que vous êtes bénis. Parce que vous avez des pasteurs qui prient pour vous, parce qu'ils vous aiment. Et ils ont formé des gens qui prient pour vous, parce qu'ils vous aiment aussi, ces gens-là. Amen. Mais quoi que ce soit qu'on fait dans la vie, la première chose qu'on peut faire, c'est de prier. Amen. Amen. La prière d'un homme juste est puissante et efficace. Waouh. Deuxièmement, restez focus, restez concentré. Shamgar n'a pas été distrait par le temps, la récolte, la météo ou ce qu'il allait manger pour le dîner. Il est resté concentré sur sa bataille. Il s'est battu avec 600 contre 600 hommes, tout seul. Waouh ! Il est facile de se laisser distraire par les situations de la vie, mais nous devons être concentrés sur ce que Dieu nous a demandé de faire quand nous le faisons. Amen. La concentration est tellement importante quand on fait quelque chose. Lorsque Billy Graham était très célèbre, en fait, il était plus célèbre que le président Nixon à un certain moment. Donc, on faisait les sondages, on demandait quel est le personnage le plus célèbre des États-Unis. Le premier nom qui sortait, c'était Billy Graham et le deuxième Nixon. Et un jour, bon, c'était encore un États-Unis assez chrétien, un peu moins maintenant. Hein. Mais un jour, on lui a posé la question alors, mais pourquoi ne courez-vous pas là, comme candidat à la présidence ? Et vous savez quelle était la réponse de Billy Graham ? Pourquoi dois-je descendre d'un échelon ? Il n'était pas en train de dire qu'être président, ce n'était pas important. En fait, je crois que dans beaucoup de pays, comme ici, chez vous, ce n'est pas un président, mais c'est un premier ministre, c'est le rêve de millions de gens d'être le premier. Ce qu'il disait, ce n'était pas que ce n'était pas bon d'être président. Ce qu'il disait, c'est que mon appel est plus important que mes propres ambitions. Et pour moi, courir à la présidence, c'était descendre d'un échelon. Mes amis, vous devez faire ce que Dieu vous demande de faire. Vous devez le faire comme vous pouvez le faire, mais pas faire autre chose parce que d'autres gens vous demandent de faire. Beaucoup de gens ont fait cela. Vous savez ce que ça veut dire, Anzalone? Qui sait ce que ça veut dire, Anzalone? Anzalone, c'est un nom juif en italien. C'est Assalone, A-S-S-A-L-O-N-E, en italien, le nom juif. C'est Absalom. Et qu'est-ce que ça veut dire, Absalom? On vous dit, le rebelle. Non. Absalom, dans la Bible, est rebelle, mais le nom, ce n'est pas un nom rebelle. Ça veut dire quoi, Absalom? Ab, c'est quoi? Abba, père. Shalom, père de la paix. Absalom, vous savez, le nom hébreu, c'est un nom qui a une portée de destinée. Et Absalom avait une destinée voulue par Dieu et par son père, pour son pays, qui était de devenir une sorte de père de la paix, un pacificateur, un sorte de juge de paix. Mais les amis lui ont dit, « Mais non, tu ne comprends pas, tu ne dois pas être un simple juge de paix, tu dois devenir le roi. » Mais pour lui, devenir le roi, ce n'est pas descendre d'un échelon, c'est de descendre tous les échelons, parce qu'il en est mort. Amen. Lorsqu'on sort de notre appel, on ne va pas bien. Amen. Hein? L'apôtre Paul dit, je fais une chose, et non pas 50 choses, ou 5 choses. Je fais une chose. Sachez ce qui compte pour le Seigneur et pour vous, et restez concentrés. Enfin, n'abandonnez pas. Ne cessez jamais d'essayer. Ne cessez jamais de servir. Kenneth Hagin, un jour, dans un des grands camp meetings, disait qu'il en avait assez de certains étudiants de Réma qui ne faisaient rien. Il ne faisait rien. Et il disait, mettez la main à la pâte. Vous n'avez peut-être pas un pupitre pour prêcher, mais vous avez des mains pour servir, pour jouer à la guitare, pour faire la sono. Vous avez des pieds pour aller, vous avez un permis de conduire pour porter des gens à l'église. Mais faites quelque chose. La Bible dit que Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Mais pas si vous ne faites rien. Amen. Ne laissez pas le découragement ou le doute s'emparer de vous. Les regrets regardent en arrière. L'inquiétude regarde autour d'elle. Mais lorsque les choses deviennent difficiles et qu'il semble n'y avoir aucune issue, relevez-vous. Regardez vers le haut. Croyez en Dieu et allez de l'avant. Amen. Vous devez savoir deux choses à propos de la vie et de votre appel. Vous n'avez pas terminé tant que vous n'avez pas abandonné. Et ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Waouh ! Nous avons tous un but donné par Dieu. Nous avons des batailles à mener et des victoires à remporter. Ne perdons pas un seul jour de notre vie à essayer de substituer d'autres choses à l'appel que Dieu a pour nous. Dieu a placé un appel en nous et il veut que nous la vivions. N'attendez pas, commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Et faites ce que vous pouvez. Et ensuite, vous allez voir, le plan de Dieu s'est déployé devant vous. Ces trois secrets étaient les seuls amis de Shamgar. Son nom n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Après cet événement, on ne parle plus de lui. Mais ce qu'il a fait pour le Seigneur reste à jamais écrit dans la parole de Dieu. Ne trouvez pas que c'est merveilleux que là-haut, dans les livres de Dieu. Rappelez, la Bible ne dit pas qu'il y a un seul livre, mais il y a des livres. Qu'un jour, votre nom soit écrit dessus. Amen. En tant qu'Église, en tant qu'individu, nous devons nous placer dans une position de victoire face à chaque défi. Malgré les conditions, les circonstances, nous n'abandonnons pas, mais nous faisons ce que nous devons faire là où nous nous trouvons. Malgré le peu que nous avons, nous allons de l'avant et utiliser ce que nous avons pour la gloire de Dieu. Malgré le peu que nous pouvons faire, vais-je le faire et réaliser les objectifs de Dieu ? Lorsque cette femme a cassé le vase d'Albatras, beaucoup de gens l'ont critiqué, mais Jésus a dit, elle a fait ce qu'elle pouvait. Pour certains d'entre vous, c'est même donner une fois un billet que vous n'avez jamais donné au Seigneur. C'est peut-être 10 euros, 10 francs, pardon, 10 dollars. Un billet de 20, un billet de 50, un billet de 100. Et puis tout d'un coup, vous dites, oh, j'ai fait quelque chose de grand pour le Seigneur. Amen. Hein? Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons prier. Je vais prier pour tout le monde comme ça, mais ensuite je vais vous demander, ceux d'entre vous qui avaient besoin de prière, que ce soit pour votre guérison, que ce soit pour du courage, que ce soit pour une direction de Dieu, que ce soit pour les finances, peut-être vos relations, si vous avez besoin de la prière, nous allons prier pour vous et nous allons croire que Dieu va vous toucher. Amen. Hein? Mais vous devez commencer où vous vous trouvez, avec ce que vous avez, et faire ce que vous pouvez maintenant. Amen. Et pour certains, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de venir devant et de recevoir de Dieu. Mais après, vous serez une bénédiction pour les autres. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Père, pour le message que tu nous as donné. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et mes sœurs, que tu puisses les toucher ce soir. Que tout le monde puisse être encouragé de cet homme que peut-être la plupart d'entre eux ne connaissaient pas avant ce soir, Shamgar. Mais qu'est-ce qu'il a fait de grand? Avec un simple aiguillon à bœuf, il a détruit 600 ennemis et il a apporté la paix dans son pays. Eh bien, je prie, Seigneur, pour que quelques personnes dans cette église se lèvent pour être des intercesseurs avec un aiguillon à bœuf qui est beaucoup plus fort et plus puissant que l'aiguillon à bœuf de Shamgar, mais qui a la prière en langue, la prière d'intercession, la prière pour toi, Seigneur, pour pouvoir libérer tes plans et tes projets pour cette église et aussi pour qu'elle soit protégée de toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Amen. Amen et Amen.